International Rescue Committee présente la mini-série sur les normes minimales pour la programmation d'actions de lutte contre la VGB qui met l'accent sur les vies de Claudine, Esther et Asma. Trois employés travaillant dans une organisation nationale de défense des droits des femmes. Cette série spéciale est diffusée sur le podcast « Protection et autonomisation des femmes » où nous donnons la parole aux femmes et aux filles dans les contextes humanitaires. Ce projet est rendu possible grâce au Bureau de l'aide humanitaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts sur les normes minimales interorganisation pour la programmation d'action de lutte contre la VGB. Ceci est le premier épisode de la série. Écoutons-le ensemble.
Allô?
Maman?
Claudine, qu'est-ce qui se passe, ma chérie?
Je me sens un peu stressée.
À cause de l'entretien? Tu vas très bien t'en sortir.
Et si le fait que j'ai été bénévole avant n'est pas suffisant? J'ai des doutes.
Tu t'es préparée, n'est-ce pas?
Oui, j'ai lu certains documents dont j'ai entendu parler. Il y a ces normes minimales pour le travail avec les survivantes de VBG. Et bien que je comprenne les mots, c'est juste difficile de penser à ce que cela signifie vraiment en pratique.
Tu apprendras au fur et à mesure. Écoute d'abord et écoute encore une fois. Tu t'en sortiras très bien. Appelle-moi quand c'est fait. Tu gères. Ne doute jamais de ça. Rappelle-toi juste pourquoi tu fais ça.
Merci, maman.
Bienvenue, Claudine. Je suis Esther, la responsable du programme de lutte contre la VBG. Veuillez vous asseoir. Commençons par faire la connaissance. Je travaille pour l'Organisation des droits des femmes depuis 8 ans. Je supervise les travailleuses sociales et je m'assure du bon déroulement de nos programmes. Dites-moi en un peu plus sur vous-même.
Je fais du bénévolat auprès des points focaux de la communauté depuis quelques mois maintenant et...
C'est génial! Comment ça se passe?
Eh bien, les points focaux ont été là pour ma sœur quand elle avait vraiment besoin d'aide et qu'il était difficile pour elle d'en obtenir. Alors j'ai décidé que je voulais aider moi aussi. C'est là que j'ai entendu dire qu'on engageait parfois des volontaires. J'ai ensuite décidé de postuler pour un poste rémunéré.
Je suis heureuse que les points focaux de la communauté aient aidé votre sœur à obtenir de l'aide quand elle en avait besoin. Beaucoup de personnes qui travaillent ici ont un lien personnel avec la violence basée sur le genre, à commencer par moi-même. Je voudrais vous parler de certaines des façons dont nous travaillons ici. Avez-vous déjà entendu l'expression « soins centrés sur la survivante » ?
C'est mettre la survivante au centre de ce que nous faisons. Cela signifie que nous pensons d'abord à elle et à son point de vue. N'est-ce pas ? Du moins, c'est ce que j'ai lu.
C'est exact. Nous créons un environnement de soutien qui favorise l'autonomisation de la survivante. Elle est placée au centre du processus de guérison afin qu'elle puisse diriger le cours de son rétablissement. Nous reconnaissons que les expériences de VBG affectent souvent le sentiment de contrôle des survivantes. Avec l'approche centrée sur la survivante, nous honorons et respectons la capacité d'agir de la survivante, sa prise de décision et son autonomie ou son contrôle, en veillant à ce qu'elle soit la principale actrice et décideuse tout au long du processus d'aide. Nous sommes convaincus que les survivantes sont les expertes de leur propre situation. Cela signifie également que nous veillons à ce que notre personnel soit formé à la lutte contre la VBG, à l'inégalité des genres et aux principes directeurs relatifs à la VBG, et qu'ils soient dotés de l'attitude, des connaissances et des compétences nécessaires pour faire respecter les principes directeurs. Cela signifie également que nous disposons de systèmes et de protocoles pour préserver la confidentialité et que nous demandons aux survivantes ce qu'elles attendent de ce processus et ce qu'elles souhaitent voir se produire.
Comme si elles étaient à la place du conducteur.
Exactement. Donc, nous nous assurons que toutes nos réunions avec les survivantes sont privées, que notre personnel et des bénévoles soient des femmes. Et nous sommes à l'écoute des femmes et des filles et de ce qu'elles attendent de nos programmes. Connaissez-vous les principes directeurs de notre travail?
C'est la sécurité. Je me souviens de celui-là. Vous avez mentionné la confidentialité et le respect.
La non-discrimination aussi.
C'est vrai.
Mais qu'est-ce que tout cela signifie?
Nous devons nous assurer que les survivantes sont en sécurité, que nous ne partageons pas leurs informations sans leur permission explicite et leur consentement éclairé, et que nous écoutons leurs choix, et que nous ne refusons personne.
Ce qu'il est important de comprendre également, c'est que ces normes sont liées entre elles et se renforcent mutuellement. Pouvez-vous me dire comment la confidentialité est liée à la sécurité ou au respect?
Lorsqu'une personne signale un cas de violence, si quelqu'un, comme une travailleuse sociale, répète son histoire, la raconte à quelqu'un d'autre sans sa permission, cela peut la mettre en danger.
Dites-moi en plus.
De nombreuses femmes qui signalent un cas de violence risquent de subir davantage de violence si l'agresseur, leur famille ou même la communauté apprennent qu'elles ont demandé de l'aide. Il peut y avoir beaucoup de jugements.
C'est vrai. C'est pourquoi nous pensons que la sécurité n'est pas seulement physique, mais aussi psychologique. Lorsque les survivantes reçoivent des services de gestion de cas, une partie du processus de rétablissement provient de ce sentiment de sécurité émotionnelle, que leurs souhaits et leurs choix seront respectés, que nous fournirons autant d'informations que possible et d'une manière adaptée aux besoins de toutes les femmes et filles afin qu'elles puissent prendre la décision. En outre, l'autodétermination exige que nous ne jugions pas les choix d'une survivante et que nous défendons son droit de choisir, y compris lorsqu'elle décide de refuser les services de soutien.
Les survivantes ont le droit de décider ce qui est bon pour elles. Mais, par exemple, comment décidez-vous de faire fonctionner l'ensemble du programme, pas seulement pour les individus, mais en tant que conception globale? Je sais que ce travail fera partie de la gestion de cas et aussi du travail sur d'autres programmes. Alors comment décidez-vous à quoi ressembleront les programmes et comment vous allez les gérer? Toutes ces décisions, comment les prenez-vous?
Excellente question. C'est une tendance avec ce travail en général. La clé d'une grande partie de ce travail est l'écoute. Nous posons des questions aux femmes et aux filles et nous écoutons. C'est l'essentiel. Claudine, j'ai beaucoup apprécié notre conversation d'aujourd'hui. Et avant de notre entretien, j'ai parlé aux points focaux de la communauté avec lesquels vous avez fait du bénévolat. Finalement, je pense que vous seriez une bonne candidate pour ce poste, si vous le souhaitez.
Vraiment? Oui, je le souhaite.
Super! On se voit lundi. Et je pense qu'on pourra même vous montrer comment nous abordons la conception de programme.
Je suis impatiente de commencer. Merci.
La norme stipule que tous les aspects des programmes relatifs à la programmation d'action de lutte contre la VGB soient axés sur les survivantes afin de préserver et de promouvoir la confidentialité, la sécurité, la non-discrimination et le respect des choix, des droits et de la dignité des femmes et des filles, y compris des survivantes de VGB. C'est ainsi que nous clôturons le deuxième épisode de la mini-série sur les normes minimales inter-organisation pour la programmation d'action de lutte contre la VGB. Si vous utilisez le guide d'animation pour poursuivre votre apprentissage, nous espérons que ce n'est que le début de votre discussion.